France Culture. Les pieds sur terre. Sonia Kronlund.
Le journal de ma vie, une série d'Adila Benedjaizou, avec Baptiste T.
août 2020. Idée ce matin pour un titre, celui qui n'essaie pas. Ça m'est venu en coupant les courgettes, c'est déjà un titre d'une chanson de Véronique Sanson, encore évidemment, toutes mes idées viennent des chansons de Véronique Sanson.
Quand j'ai lu les premières pages du journal de Baptiste, je me suis dit qu'un écrivain qui s'inspirait de Véronique Sanson était forcément intéressant.
Je m'appelle Baptiste, j'ai 25 ans.
D'autant plus s'il était né 60 ans après elle.
Aujourd'hui, je dis « je suis écrivain » ou parfois je dis « je suis écrivain et journaliste ».
Oui, parce que Baptiste Thierry Guilbert a 25 ans.
Et que ça dit aussi comment je paye mon loyer.
Et nous allons lire ensemble le journal qu'il a tenu entre 2020 et 2022. Je sais, c'est court. Mais souvenez-vous que quand on a 20 ans, on vit plus de choses en un an qu'en une décennie de la quarantaine. Et puis, comme Baptiste fait partie de ce qu'on appelle la Gen Z, la génération Z, le numérique coule dans ses veines en quelque sorte.
J'ai un site web personnel que les gens connaissent plus ou moins, qui est en signature de mes mails, qui raccordait mes réseaux sociaux plus ou moins.
Et son journal a été publié en ligne. Ce qui occasionne, comme vous allez l'entendre, des intrusions surprenantes du réel dans l'écriture et vice-versa. Le journal de ma vie, Baptiste T. Mais ce que je trouve le plus fascinant en lisant Baptiste, c'est qu'on est happé dans la socialisation d'un jeune homosexuel d'aujourd'hui. Un aujourd'hui où l'homophobie se porte encore très bien, merci, dans les rues de nos villes. Mais aussi à l'intérieur même des personnes qu'elles visent. Comme si elles étaient fatalement condamnées aux amours tragiques et à l'oubli. Sauf quand, comme Baptiste, à force de se raconter et se raconter encore, pour imposer sa propre version de l'histoire, on parvient à retourner la tragédie et tirer la langue à la fatalité.
Alors de mémoire, si je dis pas de bêtises, je dirais à 18 ans, donc en 2017-2018, je crois que c'est vraiment là que j'ai commencé à écrire ce journal. Peut-être un poil plus tard, ça correspond vraiment à après le baccalauréat, en fait, quand je suis parti de chez moi, que j'ai commencé à être étudiant, quoi. Quand j'ai commencé à vivre seul. Et parce que j'étais traversé aussi de beaucoup de questions et de beaucoup de choses que je voulais comprendre et donc articuler aussi par l'écrit. C'était quoi ces questions? C'était qui je suis? Qu'est-ce que je désire? Quand je dis qu'est-ce que je désire, c'est un désir qui se place partout. Hein. Je veux dire qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux être? Etc. Je pense que j'ai essayé de trouver des réponses dans des livres. Premièrement, le livre blanc de Cocteau, qui vraiment là, me fait ouvrir les yeux sur beaucoup de choses et me fait comprendre que je peux lire des choses écrites presque par moi. C'est-à-dire qu'il y a un sentiment à la lecture de « oh là là, mais ça, j'aurais pu l'écrire, en fait ». Et puis, quand même, très rapidement, ça a été Hervé Guibert. Il y a quelque chose quand même de très fort qui se passe quand je lis Hervé Guibert. Et puis, c'est un peu le premier livre que je lis de ma vie, en fait.
Après un premier livre, arrive un deuxième, puis d'autres encore. Baptiste devient un lecteur, et surtout, il se met à écrire. Ces deux activités prennent tant de place qu'il quitte la fac au bout d'un an. En 2020, comme nous tous, il traverse le premier confinement en pensant que c'est le dernier. Puis, il organise sa vie pour pouvoir écrire. Il écrit.
16 août 2020. Absurdité d'une situation, je dois aller à la mission locale parce que je ne trouve pas de travail pour payer mon loyer, mais j'ai un travail et j'écris. C'est au moment où j'étais dans un assez grand appartement, tout seul, toute petite ville, pas très loin de Lyon. C'était la fin du premier confinement, vraiment au tout début de l'été, et je pensais être pris pour un travail dans une librairie qui ferme des répercussions... des restrictions sanitaires, etc. Et donc, je suis contraint à aller à la mission locale pour peut-être grappiller quelques sous ou avoir quelques directions professionnelles, même si j'ai pas du tout envie de travailler dans quelque chose que pourrait me conseiller la mission locale. Je lis et j'écris énormément. Et je vois aussi énormément de films. 20 septembre 2020. Je n'ai pas d'argent. 2 euros pour une semaine avant la fin du mois. 2 paquets de pâtes. Le déni ne suffit plus. C'est vraiment marrant hein, de relire ça. J'étais vraiment très très précaire en fait hein, à ce moment-là, donc je comptais vraiment les euros, ouais, c'était vraiment très compliqué. Et j'avais pas de travail du tout et aucun minima social. J'avais 20 ans, pas le droit au RSA, donc je ne pouvais compter que sur les 300, 400 euros donnés par mes parents, quoi, ce qui est vraiment très peu. Et parce que j'arrivais à piquer, à voler dans les différents commerces où j'allais, quand j'arrivais plus à m'acheter à manger, quoi. Je suis écrivain. Je n'écris pas ça par prétention, j'ai tendance à l'oublier, à force d'entendre quotidiennement que je ne le suis pas, autorité parentale. C'est mon métier, mon job, mon occupation, ma préoccupation. C'est marrant, encore une fois, j'avais oublié que j'avais écrit ça. C'est un moment où j'avais vraiment besoin de l'affirmer, je crois. Je suis écrivain, je suis écrivain, je suis écrivain. Et quand je dis autorité parentale, c'est un peu fort. Hein. C'est un moment, je pense, où ma famille, notamment mes parents, me renvoyaient l'image de quelqu'un qui ne faisait rien. Et de quelqu'un perdu, de quelqu'un qui savait pas ce qu'il faisait. Alors que moi, je savais que je savais ce que je faisais.
Nourri de sa conviction et de légumes glanés à la fin du marché, Baptiste se lance dans l'écriture d'un roman autobiographique. Et dans son journal, surgissent des souvenirs de son adolescence. Il écrit.
Lycéen, je venais, déjà, seul, sur les rochers des Goudes pour ne pas aller en cours. Des vieux garçons en moto s'arrêtaient au bord de la route, dire « Tu veux monter, faire un tour ?» et repartir suite à mes refus successifs. 14 ans, 15, je connaissais en partie la beauté du sexe avec mes pères, suffisamment pour savoir comment refuser les avances déplacées des vieux garçons. Ils avaient l'âge de mes parents, de mes grands-parents le plus souvent, enfin vous voyez. Les vagues viennent, personne dans l'eau, mais ils sont alignés contre le mur en maillot de bain pour bronzer. Je pense que si peut-être j'avais pas eu ces histoires avec des garçons de mon âge, c'est quand même une énorme chance. En tout cas, c'est quelque chose de bien, quoi. Je pense d'avoir eu la possibilité comme ça d'avoir des relations avec des garçons de mon âge à 15-16 ans. Je pense que peut-être j'aurais pas réussi à leur dire non et je suis pas sûr que ça aurait été une bonne chose. Parce qu'évidemment que dans un monde idéal où l'homophobie n'existe pas, où on peut exprimer son désir librement, on peut exprimer sa sexualité librement et donc on n'est pas contraint comme ça à avoir des relations avec des personnes plus âgées. Mais à 15 ans, tout le monde n'est pas en dehors du placard, comme on dit. Donc voilà, à qui est-ce qu'on peut parler, avec qui est-ce qu'on peut baiser Et puis, je crois que ce que j'évoque aussi, c'est le désir omniprésent dans cette ville qu'est Marseille, où cette ville est traversée à la fois par ce désir masculin omniprésent, dans les rues, sur la plage, tout le monde est tout le temps déshabillé, les garçons se tiennent comme ça, et en même temps une violence masculine très forte, une homophobie très forte, une misogynie très forte. 6 mars 2021. Faust qui me dit « Et le petit blond qui était toujours avec toi, tu le vois encore ?» Faust était à Lourdes. Faust nous avait vus là-bas. Faust a rajouté « Ça avait l'air beau ce que vous partagiez. » J'ai dit oui. J'ai dit que je préférais me concentrer là-dessus plutôt que sur la difficile fin. Vous êtes en mauvais terme, j'ai précisé, il est impossible qu'on se revoie un jour.
C'est qui ce petit blond ?
C'est quelqu'un qui a été dans ma vie pendant plus de 5 ans. On peut lire souvent dans mon journal son apparition. Et il se trouve que ça a été un des personnages très importants de mes deux derniers romans. Celui que j'appelle Clément dans mes deux derniers romans et que j'appelle aussi Clément dans mon journal. Ça a été mon meilleur ami, puis mon amant, puis mon amoureux, puis à nouveau mon meilleur ami de mes 15 à mes 20 ans, pour aller vite. On s'est rencontrés à Lourdes, j'étais dans un collège-lycée privé catholique à Marseille, et donc on a fait ces voyages scolaires-là à Lourdes ensemble aussi 3 ou 4 fois. On est devenus amis, une amitié très forte tout de suite. Et qu'une amitié, entre-temps, moi je vois d'autres garçons en plus, plus ou moins. Et puis à un moment très particulier, en fait, dans un autre voyage scolaire qu'on a fait en Roumanie, quand je le regarde là, je le regarde différemment. C'est-à-dire que pour moi, il avait toujours été quasi asexué. Puis là, il devient un homme, en fait, ou en tout cas un début d'homme. Il commence un peu à se muscler. Bon, il a arrêté de grandir, mais bon, quand même, son corps s'épaissit et il est plus du tout asexué pour moi. Et je commence curieusement à avoir du désir pour lui cet été-là. Puis ce désir-là, il grandit. Et donc, il y a vraiment ce changement-là qui s'opère en moi. Et puis après, qui s'opère en nous. Et puis bon, ben, un soir, ça dérape. On a cette première relation sexuelle. Et puis ça se reproduit. Et puis voilà, quoi. Ça dure comme ça quand même quelques mois, en fait. Et puis en fait, on est très, très, très amoureux, quoi. On vit un truc très, très particulier, ouais. Et qui n'est pas public du tout, parce que tout de suite, son désir très, très, très profond de ne pas du tout en parler, même avec moi, et encore moins aux autres. Mais il y avait vraiment une interdiction très forte de son côté. Et un grand, 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 grand refoulement et un grand, grand, grand secret. Où vraiment, si ça se disait, si ça se savait, mais même pour lui-même, ça aurait vraiment été destructeur. Ça se voyait même dans son corps, hein. Il y avait un truc très fort.
Au printemps 2021, Baptiste revient vivre à Marseille, la ville où il a aimé Clément. On vient de trouver un vaccin contre le Covid et il est de nouveau possible de sortir de chez soi. Il écrit. 22 juin 2021. Hier soir, on est rentré en voiture. Aurélie a allumé la radio dans sa voiture. Le concert à Cologne de Kate Jarrett passe. Radio classique pourtant.
Celui que j'écoutais en boucle à l'écriture de mon premier roman. Sur la plage, je grelottais un peu pendant que J me racontait sa récente rupture. C'était après le départ d'A. Il l'a ramené chez lui. A, avant de partir, dit... C'est la première fois de ma vie que la proportion est inversée. La proportion de quoi ? Celle entre les LGBT et les non-LGBT. Nous étions plus de gays et de lesbiennes que d'hétéros à cette soirée sur la plage. On se souvient très bien de cette soirée-là. En plus, c'était suite à ces nombreux confinements. Et on est une genre de quinzaine, vingtaine, avec beaucoup d'amis, comme ça. Et c'est un peu la première fois pour tout le monde, depuis au moins un an, voire deux, qu'on rencontre des gens qu'on connaît pas, quoi, en fait. Hein. Les confinements m'ont un peu éloigné de cette vie-là où j'arrivais à avoir beaucoup de gens, bien sûr, à avoir beaucoup de relations, avoir... beaucoup de relations amicales, affectives, sentimentales, sexuelles, et puis paf, il y a eu cette coupure-là.
Le retour à la vie est d'autant plus joyeux que Baptiste vient de publier son premier roman. Il y raconte son histoire avec Clément. Son titre, Pas dire.
11 août 2021. Fin d'après-midi, No évoque sa situation cocasse, saugrenue. La réalité est là. No lit un livre que j'ai écrit à propos de ma relation avec Clément. No habite chez Clément pour l'été. Clément me déteste probablement, ou en tout cas ne veut plus savoir que j'existe. Clément ne sait pas que No lit mon livre. Sait-il au moins que j'ai sorti un livre ? No doit se cacher pour le lire, et il doit cacher le livre parce qu'il y a mon nom sur la couverture. Clément est définitivement sorti de ma vie, depuis 2 ans, hein, quasiment, je crois. Le seul lien qu'il nous reste, c'est 2 amis en commun, dont No. Mais je sais qu'à ce moment-là, oui, il m'en veut, il me déteste terriblement. Ouais. Sans doute qu'il pense que je lui ai fait du mal, parce qu'il était persuadé que ce que j'avais dit de nous à quelques personnes étaient faux et que donc je l'ai trahi, et ça c'est vrai, je l'ai trahi. J'ai trahi ce silence qu'il nous imposait parce que j'arrivais plus du tout. Quand il a réalisé, c'est ça qui a provoqué la rupture. En fait, je voulais soit vivre la relation de manière épanouie, hors du secret en fait, soit ça, soit d'en finir parce que je ne supportais plus du tout ces modalités-là. Je l'en voulais énormément quand même. Ça a été très très douloureux, parce que parfois j'étais convaincu, je me disais, s'il m'avait aimé davantage ou assez, il aurait peut-être réussi à surpasser sa honte et son refoulement. Voilà. Je me disais, c'est qu'il ne m'aime pas assez. 13 septembre 2021, samedi soir, je suis au restaurant, ils ont appelé les pompiers, peut-être 10 minutes à attendre, puis ils sont arrivés. Pour m'emmener à la Timone, aux urgences pour adultes, il y aurait de nombreuses choses à écrire. Le nom du pompier, Esteban. Le nom de l'infirmière, Émilie. La tétanine de mes bras et de mes mains. Et ben, c'est un soir où je fais une crise d'épilepsie très violente, donc avec des amis, et comme ça à la terrasse d'un restaurant, crise épileptique qui me contraint à aller aux urgences amenées par les pompiers. Ouais. 16 septembre 2021, après la crise de samedi soir, j'ai dit le code de mon ordinateur à Quentin, dans le doute, pour qu'on puisse accéder à mes textes si jamais il m'arrivait quelque chose. J'avais ce truc un peu... ego trip quoi, de merde, s'il m'arrive quelque chose de grave, j'ai envie qu'on ait accès à ce que j'écris. Et c'est vraiment quelques jours après, je crois, que j'ai entrepris ce travail là de tout publier, même sans relire hein, du tout, de tout publier et après de publier régulièrement dès que j'écris quoi, de le sortir quoi, en quelque sorte tout de suite. C'est aussi une condition médicale qui modifie vachement mon rapport au souvenir, à la mémoire en fait, parce que ça a énormément d'effets sur ma mémoire. Et ça provoque beaucoup de pertes de mémoire, en fait, hein, ces crises-là. Pas du tout sur les moments des crises, mais en fait sur des moments de ma vie en général. 22 septembre 2021. Autre chose. J'ai écrit sur mon épilepsie ce que je n'avais jamais réussi à faire. J'assume désormais la dimension physique, les lésions neurologiques. J'assume les oublis, les troubles de mémoire qui créent parfois des malentendus avec certains amis qui me disent deux fois la même chose sans que je m'en souvienne de la fois précédente. Et la raison supplémentaire de ce qui me pousse à écrire, écrire avant l'effacement progressif des souvenirs. Alors maintenant, deux choses. L'une, j'écris pour établir une vérité dont on m'a privé. L'autre, j'écris pour pouvoir me souvenir après. En l'occurrence, c'était le cas avec Clément, puisque voilà, il avait cette grande confusion et ce grand secret qui nous liait là, qui fait que parfois, j'avais l'impression qu'on partageait pas les mêmes souvenirs, et je me demandais même si c'est pas moi qui ai inventé, quoi. Je me dis, attends, mince, en fait, ça se trouve, j'ai inventé, j'ai des tels trous de mémoire. Donc le journal, ça a été aussi le moyen d'écrire, parce que je l'écris le jour même, et parfois j'écris même en même temps, sur mon téléphone rapidement, ou sur un cahier très rapidement, pendant que je vis des choses, et après je le recopie le soir ou le lendemain, mais... Mais oui, oui, cette épilepsie, elle est quand même intrinsèquement liée à mon écriture et à toute mon écriture, en fait. 14 septembre 2021, suite. Clément a une copine et je n'arrive pas. Je n'arrive pas du tout à comprendre. J'ai l'impression d'être amoureux de quelqu'un qui n'existe pas, un fantasme, une relique de ce qui a été, de ce qui n'est plus. Mon amour pour lui et son amour pour moi. Notre relation qui s'est achevée dans la douleur et qui subsiste malgré tout. Je suis amoureux de ça. Je suis en manque de ça. Ça n'existe plus. Ça est mort depuis longtemps. Ça ne doit pas être oublié, mais doit être digéré. Il n'y a pas de méthode. J'ai tout essayé. Écrire, pas écrire, en parler, pas en parler. Le tuer symboliquement, rien ne fonctionne, alors quoi? Faut-il que je parte à nouveau? Mouton m'a dit qu'il fallait que je tombe amoureux de quelqu'un d'autre. Je ne tombe amoureux de personne. Je sais plus lequel de mes deux amis en commun dit qu'il a une copine. Et effectivement, là, je prends ça un peu comme ça, vraiment comme une claque, en fait, hein, d'apprendre qu'il a quelqu'un et que c'est une fille, en fait. Parce que ça confirme encore plus son secret, quoi. C'est-à-dire, il a toujours pas réussi à accepter son désir pour les garçons. C'était quand même un nouveau couteau hein, dans mon histoire avec lui, hein, ce moment où j'apprends ça, ouais.
Est-ce que ce nouveau coup de couteau est aussi le dernier ? Toujours est-il que quelques mois plus tard, Baptiste quitte Marseille.
27 décembre 2021. Je suis allé sur la corniche pour un au revoir. La mer était foncée et les gens étaient de dos. Il ne pleuvait presque pas. Je n'étais pas nostalgique par anticipation. Je savais l'adieu définitif, fini les rues qui font mal. Là, ce dont je parle, effectivement, c'est mon dernier départ, on va dire, de Marseille. Et c'est un moment très important parce que c'est la ville où je suis né, où j'ai grandi. Et c'est une ville qui m'a vraiment fait tout subir, quoi. Je sais pas si c'est le départ de Marseille ou d'autres choses de ma vie, parce que ça a coïncidé aussi avec, en fait, le début de ma vie d'écrivain. Et d'un moment où je me reconstruis aussi ailleurs, ou... 16 février 2022. Hier. Je tiens le bouquet de fleurs séchées que Guillermo a acheté pour l'anniversaire de son ami. J'attends devant la pâtisserie orientale. Il achète quelques gâteaux pour Agatha. Je regarde mes mails sur mon téléphone. Je dois recevoir quelque chose d'important. Il sort et me demande « Ça va ?» Je dis « Oui, tout va bien. » Je souris parce que c'est vrai, je suis heureux. On marche vers Place de la Trinité. Il reprend le bouquet, me donne un emballage blanc en disant « Tiens, c'est pour la Saint-Valentin, un macroute aux dattes. » Il dit que c'est pour la Saint-Valentin et je l'insulte de sous-merde. Il dit « Donne-moi un peu ». Il plante ses dents, quelques poils de moustache deviennent mielleux. Je lui dis « T'es beau quand tu manges à ma croûte ». Il m'insulte de sous-sous-merde. C'est sûr que là, c'est une rencontre assez importante. Avec donc celui que j'appelle Guillermo. Quand je pars de Marseille et que j'emménage à Toulouse, je rencontre ce mec. Et je crois qu'il m'apprend à avoir une relation... très différente et en même temps très simple. Et je le dis souvent, peut-être dans mon journal, je sais pas, mais je le dis souvent aux gens, ou même à lui, il m'a appris à être amoureux. Bon, je vole la phrase à Véronique Sanson, mais c'est vrai, il m'a vraiment appris à être amoureux bien. Et ça a été très, 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 très réparateur. Ça m'a fait dire qu'autre chose était possible, en fait. Et donc ça, c'est vraiment bien. C'est-à-dire que quand même, cette relation avec Clément m'a persuadé qu'on était, en tant que personne minorisée, là, condamné à des relations tristes. J'en étais pas persuadé, mais quand même, je le pensais fort, 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 et puis je voyais autour de moi. Et puis là, on n'est pas condamné à des relations tristes, en fait. Et c'est ça que Guillermo m'a appris.
Dans les dernières pages du journal de Baptiste, qui jusqu'ici semble avoir ses propres règles en ce qui concerne la pudeur, on voit apparaître de longues bandes noires qui empêchent de lire certains paragraphes. Un peu surprise, je lui demande de quoi il s'agit.
Comme dans un rapport de police, hein ? Ou un truc confidentiel, un peu comme on voit dans les films. 20 février 2024. Donc c'est plutôt très récent. Mais c'est vrai que c'est la première fois, en fait, à ce moment-là, où je suis confronté à « mince, ça, vraiment, là, je peux pas le publier, parce que ça peut blesser des gens, en fait. Ça peut avoir de l'effet sur la vie des gens. » Et c'est la première fois que ça m'arrive, depuis le début du journal. Je l'ai retiré quelques mois après ce moment-là où je biffe des passages. Parce que je commence aussi peut-être à être... mon nom, enfin sans m'en vanter, mais mon nom commence à exister. C'est-à-dire que mon livre sort, je fais des rencontres en librairie, je suis reconnu en tant qu'auteur, machin. Et j'écris sur ma vie et n'importe qui peut le lire. Donc en fait, n'importe qui voilà, cherche mon nom sur Internet peut tomber sur mon journal. Ça devient vertigineux et ça commence à arriver que je me censure dans mon écriture. Je me dis, ah non, ça je veux pas. Je veux pas me censurer là. Donc ça m'embête. Donc là, en fait, je me suis dit, non, là c'est vrai que il y a eu plusieurs incidents très rapprochés et celui où vraiment là je l'ai mis en ligne, c'est quand ça a eu l'effet sur mon amoureux.
Forte de cette idée qu'un journal, c'est toujours un peu une lettre qu'on adresse à la personne qu'on va devenir, je pose à Baptiste la question que je pose à tout le monde. Que dirait-il au jeune homme qu'il était, il y a seulement 4 ans ?
Regarde, ça va aller, quoi. Non, je sais pas. Mais je pense que j'aurais aimé hurler de rire, en fait, si on m'avait dit à l'époque le mode de vie que j'ai aujourd'hui. À tous les points de vue, que ce soit relationnellement. C'est-à-dire, si on m'avait dit que j'allais avoir un amoureux, mais en même temps que cette relation n'allait pas m'empêcher d'avoir d'autres relations et que j'allais vivre, mais en toute facilité et simplicité, le fait que mon amoureux aussi puisse s'épanouir avec d'autres garçons, j'aurais hurlé de rire. Si on m'avait dit que j'allais passer mes journées à écrire, que j'allais être reconnu, voire même parfois, voire souvent payé pour ça, pareil, j'aurais hurlé de rire, en fait. Enfin, c'est très rigolo, quoi. Mais dans le bon sens du terme, c'est trop bien.
C'est le moment, un moment important. Je sais bien ce qui m'attend au coin de ma vie. Tu m'as appris à être amoureuse. Depuis, je suis peureuse. Je ne pense qu'à toi. Je te connais, tu fais toujours semblant, presque toujours semblant quand tu me fermes les yeux. Tu joues l'indifférence, c'est alors que je pense, je me revois rêver ce rêve que je déteste, tu dors.
C'était Le Journal de ma vie, une série d'Adila Benedjaizou réalisée par Clémence Gross et mixée par Ludovic Auger. Aujourd'hui, c'était Baptiste T. Merci à lui, Baptiste Théry, à Fabien Leroux et à Cyrus Mohammadi.
Bleu, tu la mets devant ton cœur pour pas que passe l'amour. Et je reste calme parce que c'est important. Je ne t'attends pas parce que je sais que tu viens me chercher pour aller dîner à la terrasse d'un café. Et je regarderai ta figure qui est comme les eaux du Gange ou bien la mer de jasmin. Les déranges ne comprennent plus rien. Pourtant le vent est fantastique.